Vous écoutez
RMC.
RMC.
On a plusieurs flèches à notre arc, comme on dit.
C'est dommage, c'est une belle occasion de rater, mais on va essayer de s'en procurer d'autres cet après-midi.
On a des hommes de caractère, donc on va tout faire pour relever le tir.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Nicolas Jamal.
Bonsoir à toutes et à tous. L'After est là comme tous les soirs jusqu'à minuit. L'After à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport News. L'After, la seule émission en France en direct 7 jours sur 7. Casting du soir. Bonsoir Jonathan Macardy et bonne année, cher Jonathan.
Bonne année mon petit chéri.
Ça va ?
Content de te revoir.
Bah oui.
Bah ouais.
T'es bien peigné, tout ça.
Bah c'était pas cher que je te voyais.
Nouvelles lunettes ? Non, non, t'avais déjà celle-là.
Non, c'est les vieilles.
T'as bossé pendant les fêtes, toi hein ? T'étais là au rendez-vous.
Ouais.
C'était intéressant.
Intéressant, ouais. Petit, le temps de se poser, de faire un petit débrief de ce qu'on a vu en Ligue 1, notamment. On a parlé de tous les clubs, ça m'a fait vraiment plaisir. Et notamment de la lutte pour le maintien qui s'annonce être cette année assez intéressante, il me semble.
Kevin Diaz à mes côtés. Salut Kevin.
Salut. Bonsoir.
On est ensemble jusqu'à minuit, bien sûr, pour revenir sur cette belle journée de Coupe de France. Il y a eu des surprises, notamment Toulouse est tombé encore une fois, terrible, face à un club de National 2. Lyon s'est imposé 6-0. Tiens, on va démarrer dans un instant la victoire lyonnaise. Évoquer notamment les petits Lyonnais qui poussent. C'est aussi à ça que sert la Coupe de France, hein, notamment le but somptueux de Ryan Cherki qui fait plaisir à la plupart des supporters lyonnais qui le réclamaient ce soir sur le terrain. On va parler également de l'Espagne, le Real, le Barça, avec Fred Hermel, bien sûr, et quelques infos mercato, bien sûr, dans l'after. Mais d'abord, l'essentiel, c'est les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Avec Jonathan.
Alors, les 3 points. Le premier point, c'est que c'est un match, ouais, le score, il est anecdotique un petit peu parce que les buts se sont enfilés comme des perles sur la fin du match. Mais je pense que ça peut être plutôt pas mal pour la confiance des joueurs lyonnais, notamment les joueurs offensifs. Dembélé a marqué, Tari a marqué, Cornet a marqué. On sait qu'avec la blessure de Memphis, ces joueurs-là vont être fortement mis à contribution. Donc, bon pour leur confiance pour commencer l'année 2020. Le deuxième point, c'est, t'en parlais en préambule, des jeunes, Guiri, Cherki, Cacré. C'est vrai qu'ils sont bons, mais je pense qu'il faut faire attention, c'est pas parce que ce soir il y en a qui ont marqué et qui ont brillé qu'il faut forcément se dire qu'ils vont supporter le poids des ambitions déchues de l'Olympique Lyonnais cette saison. Il faut quand même recruter et les intégrer en douceur pour pas les cramer. Et troisième point, très rapidement, Toulouse c'est la catastrophe et ça continue. La saison est galère pour le TFC.
10e défaite consécutive. Kevin.
Pour moi, le premier point, ça reste quand même la Coupe de France, toujours aussi charmante pour débuter l'année. On a vu de belles surprises, on a vu quelques bons matchs aussi. Deuxième point, forcément Lyon aux deux visages, un Lyon un peu bousculé en tout cas dans la première demi-heure de jeu plutôt, et ensuite notamment avec l'entrée des jeunes et un très bon Dembélé, on a vu plus de confiance, pas mal de fraîcheur et ça fait plaisir à voir sur cette deuxième mi-temps. Et ensuite troisième point, un peu comme Jonathan, Toulouse non seulement éliminé mais en plus c'était mérité. C'est-à-dire que bravo à Saint-Privé-Saint-Hilaire parce qu'ils ont clairement mérité leur qualification. Et bravo aussi à ce club de Saint-Pierre à La Réunion qui s'est qualifié et ici en métropole.
La Saint-Pierroise, effectivement, qualifiée pour les 16e de finale. Premier club ultramarin, Outre-mer, qualifié pour les 16e de finale depuis 1989. C'est un club guyanais qui avait réussi l'exploit avant de se faire éliminer par le FC Nantes. Appelez-nous au 32-16, supporter lyonnais, supporter monégasque également. J'aimerais qu'on parle, messieurs, ce soir de la première de Robert Moreno sur le banc de l'AS Monaco en tant qu'entraîneur, la victoire monégasque et la qualification in extremis face à Reims, mais qui va sûrement faire du bien, bien sûr. Tiens, revenons sur Lyon d'entrée. Appelez-nous supporters lyonnais, bien sûr, le hashtag RMC Live, l'application Direct Studio. Qu'est-ce que vous retenez de la victoire lyonnaise? On en a parlé dans vos 3 points, Jonathan. Il y a les gamins de Lyon, ouais. Ça sert aussi à ça, la Coupe de France, à ouvrir des compteurs buts, mais il y a également une victoire 7-0, certes face au 8e de National, mais dans le marasme lyonnais de ces dernières semaines, ça fera forcément du bien.
Je pense que ça fait du bien. Après, le contexte est un petit peu, le score est un petit peu boursouflé quand on regarde le contenu du match.
Ouais, c'est vrai.
Lyon a quand même été mis en difficulté par cette équipe à des moments. Donc c'est pour le côté un petit peu négatif. Après, si on s'en tient au résultat, oui, c'est extrêmement positif parce que l'Olympique Lyonnais est un club qui joue la Coupe d'Europe depuis des années. Je sais plus combien d'années consécutives de qualification Ligue des Champions. Jean-Michel Aulas s'en gosse en permanence.
Oui, je le répète.
Et je pense que cette année, ça va être un petit peu compliqué en championnat. Ça risque d'être compliqué et qu'il faut absolument que l'Olympique Lyonnais ait pour objectif de gagner une coupe. Donc forcément, c'est positif de se qualifier. Après, sur le contenu, il y a eu du très bon et il y a eu du moins bon. Le très bon, c'est les mouvements offensifs que j'ai trouvé assez huilés. J'ai trouvé des joueurs comme Dembélé, qu'on avait quitté en 2019, un peu, tu vois, irrégulier. Là, ce soir, je l'ai trouvé excellent. On sait qu'il y a des rumeurs de transfert autour de son cas. On sait que l'Olympique Lyonnais veut recruter un autre avant-centre, voire un, enfin, ou du moins un autre attaquant axial. Donc, lui pourrait peut-être se sentir menacé. Ouais. Je l'ai trouvé très bon ce soir. C'est bien aussi, comme le disait, que Terrier et Cornet aient marqué parce que leur importance en seconde partie de saison va être capitale. Après, je pense qu'on parlera un peu plus longuement des jeunes. Mais c'est vrai que, même si je le disais qu'il faut pas s'enflammer et pas les griller, il y en a qui sont vraiment très bons, et moi je mets une mention spéciale au petit Cacré, parce qu'à chaque fois que je le vois jouer, je le trouve excellent.
Qui était préféré à Thiago Mendes ce soir, hein, par Rudy Garcia. Yvonique, supporter de l'OL au 32-16, est avec nous. Bonsoir Yvonique.
Bonsoir à vous.
Et bienvenue dans l'after, bien sûr.
Salut Yvonique.
Merci, tous mes vœux pour cette nouvelle année.
Bah, toi aussi, pareil, bien habitué de l'after, Yvonique.
Ouais, c'est un bon Yvonique.
Bon, t'as kiffé le match de l'OL ce soir ou pas?
Bah écoute, je suis satisfait, même si en première mi-temps on a été quand même beaucoup bousculé. On a été pressé. Voilà, c'est une équipe de nationale qui est pas inintéressante. Hein. Je regarde un peu le national aussi, et c'est une équipe qui est très joueuse. Après, c'est vrai que la première mi-temps, on a eu un réalisme parfait, parce que je crois qu'on n'a pas eu non plus trop de situations, 2-3 occasions et on en met deux. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est surtout l'attitude en deuxième mi-temps, ce qu'on a. Moi, j'ai souvent gardé l'habitude d'un Noël à deux visages, avec deux mi-temps complètement opposés. Une deuxième mi-temps que j'ai trouvée très intéressante, notamment où on marque très très tôt et puis on n'a pas lâché, parce qu'on a tendance parfois à gérer, puis on se mettait en difficulté, on laissait venir nos adversaires et puis on se faisait écraser. Et puis que là, voilà, il y a les jeunes qui sont rentrés, on a continué à en mettre le quatrième, le cinquième, on a joué jusqu'au bout, c'est ça qui m'a plu. Maintenant, j'ai écouté aussi vos différentes interventions. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus rester sur le 7-0. C'est un Noël très fragile, en convalescence. Moi, je suis content de ce que j'ai vu ce soir. Maintenant, il faut confirmer dans les matchs à venir. Surtout qu'il voilà, y a un effectif un peu bousculé par les blessures. Oui. Maintenant, en championnat, voilà, c'est vrai qu'on est 12e. Mais bon, c'est vrai que la deuxième place, ça risque d'être très compliqué. Mais on parlait des vœux tout à l'heure pour un Noël pour jusqu'en juin 2020. Moi, pour moi, la troisième place n'est pas encore morte. Mais par contre, il va plus falloir laisser traîner les points en route. Quoi.
Il faut quand même essayer de se dire que, vu que la concurrence va être très forte avec Rennes, avec le LOSC, avec Marseille, gagner une coupe, outre le fait que ça la sauverait ta saison et que ça fait quand même un petit bout de temps que l'Olympique Lyonnais n'a pas gagné de trophée, ça serait aussi une qualification en Coupe d'Europe. Après, sur ce match, Yvonique, moi, il y a un truc qui me fait un petit peu peur, et tu vas me dire, parce que tu connais bien le contexte de ton club, c'est que ces jeunes qui ont brillé, très bien, c'est des jeunes qui ont du talent, on en entend parler depuis très longtemps, notamment Amine Gouiri, c'est un joueur, le compte, l'espoir du foot qui suit les jeunes, il nous en parle depuis des années. J'ai un petit peu peur que cette très bonne prestation des jeunes fasse que peut-être dans la tête des dirigeants y ait l'idée de ah bah finalement on n'a pas forcément besoin de recruter.
Oh quand même.
Eh ben ouais, j'ai un petit peu peur.
Juninho quand même, c'est pas.
Nico, tu sais pourquoi j'ai peur de ça? C'est parce qu'il y a quand même cette mystique autour des jeunes lyonnais, de cet Olympique lyonnais qui s'appuie sur son centre de formation, qui s'en sort par son centre de formation, par la base lyonnaise, par la fibre lyonnaise.
Et avec des supporters qui poussent dans tous les sens.
Les supporters
avec les Gouiri qui ce soir.
Oui. Au contraire, j'ai un petit peu peur de ça. Parce qu'il faut quand même beaucoup recruter.
Oui. Bon, je ne sais pas s'il va falloir beaucoup recruter. En tout cas, il va falloir recruter intelligemment.
Voilà. Oui, parce qu'il ne faut pas non plus les jeunes.
Après, laisse-moi juste te faire, si tu me le permets, le résumé de ce match. On a vu un Lyon qui a été un peu surpris, je pense, par la qualité de cette équipe dans le début de match, avec beaucoup d'agressivité, comme tu l'as dit, beaucoup de pressing. Un match de reprise, avec quand même une équipe qui pressait de façon coordonnée. Et donc, ils se sont un peu recroquevillés et ils ont joué, comme tu as dit, un peu de façon, entre guillemets, un peu peureuse, mais quand même assez intelligente. Et ils ont réussi, grâce à la qualité de Dembélé, à finir deux actions et à marquer deux buts qui les a fait rentrer complètement dans ce match. Par contre, en deuxième mi-temps, il y a eu un phénomène qui est très intéressant avec les jeunes joueurs. C'est-à-dire que les jeunes joueurs sont rentrés en fin de match. On aurait pu croire que si ça avait été des anciens, moi je me rappelle à la fin de ma carrière, dans ce genre de match, on n'avait qu'une seule envie, c'est que l'arbitre il siffle et rentrer à la maison pour faire le décrassage demain matin. Mais eux, les jeunes, c'est pas ça qu'ils pensent. Eux, ils veulent montrer qu'ils ont des qualités, ils veulent montrer qu'ils peuvent jouer, ils veulent marquer leur premier but en pro, ça, ou leur bien. Deuxième ou leur troisième.
C'est là où
les jeunes de Lyon vont être intéressants dans cette deuxième partie de saison, sans trop se précipiter, parce que Jonathan disait, ah, le club pourrait penser qu'il faut qu'ils jouent plus, mais les jeunes aussi pourraient penser qu'il faut qu'ils jouent plus que ce qu'ils ont besoin. Tu tu vois. Ce que je disais quand même, faut pas oublier que Cherki, il a 16 ans, les gars.
Bien sûr.
Allons-y doucement. Donc, laissons-lui le temps d'apprendre le haut niveau. Mais en tout cas, c'est vrai que ces jeunes Lyonnais, ils ont du talent. Il faut qu'ils gardent cette dalle, comme on dit, cette faim de vouloir montrer leur qualité. Et comme ça, jusqu'à la fin de saison.
Et il y a une chose aussi sur les jeunes qui est importante, c'est que les jeunes Lyonnais se sont épanouis parce qu'ils étaient dans des équipes où il y avait des cadres pour les encadrer. Et là, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Le cadre le plus important étant Memphis Depay, qui est out jusqu'à la fin de la saison. Ça fait quand même un encadrement en moins pour les jeunes. Donc, je pense qu'il est quand même impératif pour l'OL de recruter des joueurs d'expérience finir la saison.
Oublions Olivier Giroud, évidemment, c'est un sujet.
Giroud.
Allez, oublions pas, messieurs, pour finir sur ce match, que c'est plus facile pour un jeune de rentrer à 3 ou 4-0 que rentrer à un.
Et oui, t'as raison. Et puis, quand le club de national a un peu lâché la rampe. Yvonne, tu voulais rajouter quelque chose?
Bah oui, juste une petite chose, c'est juste que oui, moi je suis tout à fait d'accord sur les renforts que l'OL aurait besoin, parce que je pense que les jeunes, faut pas trop, enfin c'est pas que je suis contre, hein, mais leur laisser les clés du camion, ils sont jeunes, faut pas les brûler.
Tu voudrais qui, Yvonick, si tu pouvais choisir, t'as une baguette magique, tu fais venir une recrue par ligne, tu prends qui?
Allez, te faut un attaquant, vas-y.
Mariano Diaz.
Ah ben tu vas en parler.
Milieu.
Pardon.
Au milieu.
Là, sur le coup, je vois pas trop.
Tu me vends Lucas Touzard, toi? À 25?
Ah non.
Ok, et derrière?
Moi, Marcelo, faut le remplacer.
Et t'as pas d'idée?
Pas
et si je prends un défenseur central, ça court pas les rues, mais. Là, je sais pas trop quoi te dire.
Ouais, ça illustre que c'est compliqué. Ce mercato est très compliqué.
En tout cas, pour l'instant, lui, on a essayé. Lui, on n'a pas réussi. Ouais. Effectivement. Merci, Yvonick. Excellente soirée à toi.
Bah, de rien. Et puis, continue comme ça. C'est chouette.
C'est cool, Yvonick. Merci. Reviens quand tu veux. Michel, supporter lyonnais, 39 ans. Pourquoi je dis son âge? J'ai lu bêtement le truc.
En plus,
c'est pas ton âge. Mais on met n'importe quoi, là. Salut, Michel. T'as quel âge, Michel?
Salut, j'ai 49.
Ah, bah, tu vois, on t'a rajeuni. On est sympa dans l'after.
Ouais, c'est cool. Merci beaucoup.
50 ans 2020.
Meilleur vœu.
Tu vas faire la cinquantaine en 2020.
50 ans en 2020.
La cinquantaine dans 3 mois, les gars.
T'es né en 1970.
Eh bah, ben, c'est beau. Exactement. Un chiffre rond dans une année.
Un demi-siècle. Magnifique. Un demi-siècle.
Il a compté comme ça, c'est bien.
T'as l'espoir pour le deuxième demi-siècle ou pas, là? En tout cas, pour la deuxième partie de saison pour Lyon?
Je suis pas d'un naturel inquiet, moi, de toute façon, puisque ça reste que du foot. Et puis, on est finalement pas si loin du podium quand tu regardes. Tu gagnes 3 matchs.
À 7 points de Rennes, qui est un match en moins, quand même.
Voilà, donc il y a 19 matchs, 20 matchs, enfin voilà.
Mais il y a du monde au milieu entre Rennes et vous quand même, hein. Il y a Lille, il y a Nantes, il y a Reims, Monaco, Angers, Montpellier, Nice, Strasbourg.
Ouais, mais encore une fois, je suis pas un naturel alarmiste, je suis pas inquiet, ils vont faire les choses correctement. Par contre, ce que j'aimerais, c'est qu'on ramène un petit peu de sérénité, qu'on ramène un petit peu de calme. Que
tout le monde
apaise un petit peu. Bah déjà dans l'entourage de l'équipe, dans l'équipe elle-même. Dans les supporters aussi, il faudrait qu'ils se calment un petit peu. Vous avez été nourri au foie gras pendant très longtemps. Ah, si vous mangez un petit peu de mousse de canard, c'est pas bien grave.
C'est pas mauvais. Donc, en plus, la mousse de canard.
Ouais, ça se fait,
c'est pas mauvais. Voilà, c'est pas mauvais. Ce soir, c'était le match qu'il fallait faire. Voilà, on a une première mi-temps où on a une équipe qui tente grandement sa chance et c'est le charme de la Coupe de France. Et puis, bah là, on marque quand même deux buts. Et puis, la deuxième mi-temps, c'est fini. Il y a un écart physique plus qu'autre chose. Et puis, il y a du talent. Il y a du talent sur les buteurs. Et j'aimerais bien que ce soit comme ça le reste de la saison. Il faudrait recruter pour remplacer numériquement ceux qui sont blessés.
Ouais.
Ça, c'est une certitude. Tout à l'heure, vous avez posé une question à l'auditeur précédent.
Ouais.
Moi, je vois bien. Il y a un joueur qui dépérit en Turquie, hein, qui n'est pas en odeur de sainteté. C'est Younes Belhanda.
Ah ouais.
Très bonne idée.
Tu veux lancer Belhanda?
Parce que meneur de jeu, parce que le mec, il est là.
Moi, j'aime bien.
C'est un routard, quoi. Et le gars, il a du ballon.
Il est pas si vieux que ça, en plus, là. Hein.
Non. C'est
il a
bon,
même pas 30
ans. Il faut le récupérer. Tu prends Siri aussi.
Ouais.
Siri, tu le récupères. T'as un milieu de terrain qui prend une autre gueule.
On peut pas dire que Galatasaray cette saison ce soit flamboyant.
Ouais. Non, mais c'est pas de la faute de ces joueurs-là. Et puis c'est le championnat de France. Donc je suis persuadé que ces joueurs-là, si tu les mets sur le championnat de France,
c'est des belles idées,
conditions.
Michel.
Pardon.
C'est des très bonnes
Belhanda,
idées.
Belhanda, sérieux les gars. Enfin.
Et là quel âge Younes Belhanda?
29 ans.
Série que Belhanda.
Mais moi, je ne viens pas un souvenir ému de Belhanda.
Ah, hein, tu rigoles.
Quelques fulgurances, mais c'est pas le joueur le plus constant.
Nico, t'as tort.
Ouais, mais qu'est-ce qu'il faut mettre? Est-ce qu'il est-ce qu'il faut mettre un tueur à ce poste-là et le recruter super cher?
Non, moi j'ai en hiver. T'as raison, Michel, parce que c'est compliqué en hiver. Après, rapport à Nico, Younes Belhanda, c'est le taulier de l'équipe l'année où ils font la très belle saison là avec Lucien Favre. C'est le joueur le plus important de l'équipe. C'est la salle des machines, c'est lui. Franchement, on a un souvenir qui est peut-être un petit peu, tu vois, déformé.
Ouais,
parce
qu'il y a un petit moment,
il était hyper important dans l'équilibre de l'équipe, de par son intelligence de jeu. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je sais pas comment, ce qu'il devient en Turquie, mais en tout cas, il a 29 ans. Si tu tentais le pari sur un prêt, sur une demi-saison, pour sauver les meubles, en mettant une petite option d'achat, si jamais ça se passe bien, ça t'engage à rien. De toute manière, t'es dans un marché où ça va être très compliqué de trouver un transfert sec de qualité. Ça passera par des prêts de joueurs qui sont pas forcément au top du top dans leur club. Et pour moi, Belhanda et Seri, c'est deux très belles idées.
Non, c'est vrai que c'est des belles idées. Et moi, je vais te poser la même question, puisque tu as parlé de l'auditeur précédent. Lucas Touzard, tu le vends à cette somme-là ou pas?
Absolument pas. Et on va pas se dépouiller. Je veux dire, on n'est pas fringant en ce moment-là. Et Touzard, même si c'est pas le, je finirai par autre chose après, mais même si c'est pas le meilleur joueur qu'on peut avoir dans ce poste-là, c'est quand même quelqu'un qui peut faire le remplaçant. Et c'est pour ça que je disais que j'allais finir sur autre chose. En ce moment, on a une équipe titulaire de remplaçants de l'année dernière.
C'est vrai.
Ouais, ça c'est toujours un problème lorsque les remplaçants deviennent titulaires. Mais alors, si c'est un ou deux, ça va. Mais si y en a plusieurs en même temps, en effet, c'est pas forcément un signe de bonne santé pour un groupe.
Il y en a trop. Et je pense pas que. Je dis pas qu'on a.
Bon, après, il y a beaucoup de blessures aussi.
Ouais, je dis pas qu'on a échoué dans le recrutement. Je dis que les joueurs sont pas. D'habitude, ils s'adaptent plus rapidement. Je suis persuadé que Thiago Mendes, là, il y a deux ans, quand il est arrivé à Lille. Moi, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce joueur? Et puis, l'année dernière, il nous fait une année tonitruante. Et ben, ce mec-là, à mon avis, lui faut du temps. Comme les autres, comme Anversen, etc. Je sais pas, c'est pas des mauvais joueurs. Ça voudrait dire que Florian Maurice, c'est une patate. C'est pas vrai. Florian Maurice, il nous a ramené des joueurs. Il nous a ramené plutôt des bons joueurs. Ndombele, il nous a ramené.
Dis-moi, Michel, si tu ramènes Giroud, là, en tout cas, là, il y a un coup à faire avec Giroud. Hein.
Mais pourquoi pas?
Il y a un coup à faire avec Ndombele aussi.
Tu prends Giroud parce que finalement. Oui, alors, c'est Dembélé, c'est cohérent, mais tu mets pas Dembélé et Giroud ensemble.
Non, j'ai dit Ndombele.
Les mecs qui construisent Giroud, là, ils sont en train de me considérer que Cornet aujourd'hui c'est meilleur que Giroud. C'est ça que vous êtes en train de me dire?
Non, t'as pas le même profil non plus, hein, attention. Hein.
Non, mais c'est pas le même profil. Mais
le truc, c'est la complémentarité avec Moussa Dembélé.
Ah oui, non, là.
Alors, je sais pas quoi dire, pour le coup, parce que c'est un joueur de rupture. Ça voudrait dire que dans le contrôle et Dembélé dans la profondeur.
Ouais, c'est ça. Pourquoi pas?
Ouais, why not? Mais honnêtement, moi, je crache pas dessus. Bien évidemment que non, je crache pas dessus. C'est des mecs qui ont de l'expérience. Et rien, ne serait-ce que pour ça. Je veux dire, quand t'es un jeune, comme Cracré, comme Barre, comme Cherki, t'as un champion du monde qui arrive dans ton équipe, mec.
C'est ce qu'on a dit.
T'as un champion du monde qui arrive dans ton équipe. Et tu peux dire ce que tu veux. Il marque des buts. Il est quand même pas loin d'être le meilleur buteur de l'équipe de France. Donc, tu peux en tirer que de l'expérience.
Mais ça, on est d'accord.
Et un mec. Et ouais, et puis le mec, il va te ramener du calme.
Et non, mais surtout Michel, franchement, je pense que Dembélé, on a dit qu'il a fait un bon match. Il a des stats qui sont très intéressantes. Je crois qu'il a 9
12 buts pour l'instant. 12 buts.
Non, mais en Ligue 1.
Ouais. Du 10 en Ligue 1, 2 en Coupe de
France. C'est des stats qui sont quand même un petit peu boursouflées parce qu'en termes de contenu, il a quand même traversé certains matchs comme un fantôme.
Ouais, mais ça reste un avancé.
Et pénalisé l'OL.
Ouais, Dembélé, c'est pas un joueur que tu vas voir beaucoup participer dans le jeu. À la base, lui, c'est un finisseur. Il l'a montré aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je l'ai trouvé très bon. Et c'est toujours très bien, même si c'est d'un.
Il n'a pas toujours été nickel dans son rôle de finisseur. Il n'a pas toujours été nickel dans son rôle de finisseur. Il y a des matchs où
aujourd'hui, même si c'est dans un match de Coupe de France contre une nationale, c'est toujours très bien lorsque tu es joueur de haut niveau de bien commencer la
Je pense que si tu peux prendre Olivier Giroud,
il n'y a pas de souci. Il faut quoi pour ce genre de joueur? Il faut des centres, il faut des balles qui arrivent, il faut des balles en profondeur.
Il faut des ouvertures, il faut des passes.
Aujourd'hui, il n'y a pas un mec, que ce soit Raphaël, que ce soit Marçal, sur les latéraux, que ce soit Terrier sur les côtés ou Cornet, qui nous adresse un centre correct. Le vrai problème de l'Olympique Lyonnais, pour moi qui suis fan de ce club-là, c'est la valeur intrinsèque des joueurs.
Oh, mais si t'as pas de centre, contrôle... Michel, pourquoi tu veux Giroud, tu vois?
Ouais, non,
Giroud, c'est que ça.
Non, il veut Giroud et d'autres joueurs éventuellement.
Je suis d'accord avec toi, mais vous m'avez dit, est-ce que tu prendrais Giroud?
Oui, bien sûr, ouais, je comprends.
Mais pour un contrôle qui monte à 2 mètres ou qui part 2 mètres avant, c'est pas l'entraîneur, c'est pas la tactique, c'est pas l'implication des joueurs, c'est le talent, c'est la technique. Si t'es ennemi du ballon, eh ben t'es pas bon. Et pour l'Olympique Lyonnais, faut qu'il y ait des mecs. On rêve de l'équipe qui était cette fois championne du monde, de France, c'est mon monde à moi. Pour le coup, Juninho, quand il faisait un contrôle, il collait au pied. Malouda, quand il faisait un contrôle, il collait au pied.
Oui, oui, mais
tu vois ce que je veux dire?
C'est vrai.
Non, mais t'as raison, évidemment.
Et on est là, réveillé à droite, le contrôle. Alors évidemment, il s'est fait endormir en quart de finale de Champions League.
Des Champions League. Ah, Mancini, ouais. Ouais, mais bon, ouais, ça restait quand même un putain de joueur.
Mais là, tu compares avec une époque glorieuse de Lyon.
Mais c'est ça, c'est soit on se rend compte qu'effectivement, on n'a pas les mêmes joueurs et qu'on joue finalement peut-être à notre niveau actuellement. Peut-être à notre niveau actuellement, avec la qualité de jeu qu'on développe et surtout qualité technique qu'on développe, ça va s'améliorer parce que les mecs ils ont du ballon pour certains et que ça va fatalement aller mieux. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faudra que ça aille mieux. Et il faut arrêter de rêver.
Je te trouve très lucide, Michel. Bravo.
Bah voilà. Mais j'aime ce club, moi. J'aime ce club et j'aime ce club depuis que j'ai un an. Donc c'est pas.
Dans l'oreillette, ta femme nous dit que ta compagne nous a appelé, nous a dit que t'es un menteur, que tu portais les verts jusqu'à ce que Lyon commence à être champion de France.
Putain, pour plutôt manger ma propre merde,
c'est un. Oh, bravo Michel.
C'est bon esprit, ça.
Ouais, merci Michel, tu finis par un mot magnifique dans la française.
Ciao Michel.
Tu as parfait jusque-là et t'as dérapé, effectivement. Excellente soirée à toi Michel, ton équipe journal à l'heure. Voilà pour Lyon, messieurs, qui affrontera Brest, qui recevra Brest en Coupe de la Ligue en milieu de semaine, là, mercredi, et qui ira à Bordeaux ensuite. De toute façon, on ne peut pas se projeter sur la saison de Lyon, là, tant qu'il n'y a pas de recrue.
Non, c'est impératif.
Comment imaginer que Lyon, dans l'état actuel des choses, puisse revenir sur le podium?
Très dur. En fait, c'est pas l'écart de points, c'est les équipes qu'il y a entre Lyon et le podium et la dynamique des équipes, surtout. Il y a une équipe, par exemple, comme Montpellier, qui fait pas de bruit, mais qui va attaquer la seconde partie de saison avec enfin Savagnier, enfin Ferry, avec l'ensemble de son effectif, qui peut faire très très mal, tu vois.
La Rennes qui tourne également.
La Rennes, ça commence à tourner, il va avoir apparemment des recrues au mercato.
Monaco
avec le nouvel entraîneur, on sait pas comment ça peut se passer, mais c'est quand même un effectif de qualité. La bataille pour la deuxième et la troisième place, même si Marseille semble avoir pris de l'avance sur les autres, va être très très compliquée. Donc c'est pour ça, Lyon, objectif, coupe et qualification Coupe d'Europe par les coupes. Après, si t'arrives à aller sur le, à accrocher les cinq premières places, c'est très bien.
Ouais, bon, dans les coupes, encore le Paris Saint-Germain quand même. Petite inconnue dans l'équation.
Oui, mais tu sais pas. PSG après élimination en mars en Ligue des Champions qui se relâche, tu sais pas.
Ça peut être comme ça, exactement.
Non, plutôt PSG qui se qualifie en Ligue des Champions et qui laisse un peu filer la coupe.
Ouais, bon, ça va être dur.
Le PSG qui se prend de remontada contre Dortmund et qui fait.
Ah, rêve ça, Jonathan, évidemment.
C'est une possibilité. Après ce qu'on a vu contre le Barça et contre Manchester United, c'est une possibilité. N'écartons plus rien.
Le Barça, on en parle dans un instant. Deux partout, sur le plus de l'Espagnol, Barcelone. On parlait de Monaco, messieurs, justement. Ouvrons la page Monégasque. C'est une des pages les plus intéressantes de ces jours, puisque Monaco a fait le choix de virer Jardim, au grand dam de Kevin Diaz, bien sûr, hein. Son premier avocat,
pas du tout.
Et a fait appel à Robert Moreno, hein, ancien adjoint de Luis Enrique.
Hein, il est pas malheureux, t'inquiète. Vu ce qu'il a pris encore là, je pense qu'il est pas mal, Jardim. Hein.
C'est vrai. Ouais, 8 millions il y a un an, 6-7 là, c'est pas mal.
Ouais, c'est.
Tu ouvres deux PEL, il est construit une maison à Madère, tu fais quoi là?
Tu fais quoi
au Portugal, Kevin, avec un chèque à 7 millions là, au Portugal?
Je pense que.
Tu construis où?
T'achètes un bon quart du pays, je pense.
Déjà.
Non, je déconne. non, mais je pense que tu. Tu vis bien pour plusieurs générations, ouais, en effet.
Pénal, Leonardo Jardim. Parlons de la première. J'allais dire réussi. Il y a des bémols, évidemment, beaucoup de bémols quand même. La première de Robert Moreno sur le banc de l'AS Monaco, victoire de 2-1 face à Reims, grâce notamment à un doublé de Keita Baldé, alors que Reims avait égalisé, but inscrit dans à la 95e minute de jeu, qui fait du bien, qui va sûrement lancer peut-être l'aventure monégasque, qui va faire du bien en tout cas aux hommes de Robert Moreno. Dis-moi, Kevin. Okay.
Je vais commencer par dire rétablir la vérité. En aucun cas, j'ai défendu Jardim.
Ah, allez, on passe à autre chose.
J'ai expliqué une situation qui, pour moi, était compliquée. Maintenant, ce qu'on a vu de Moreno cet après-midi, en tout cas, c'était intéressant pour une première, parce que déjà, il y a la qualification au bout, et en coupe, on sait que c'est le plus important. Surtout quand vous êtes un jeune entraîneur qui découvrait un nouveau pays, un nouveau football et un nouveau club, surtout. Maintenant, j'ai trouvé un pressing, notamment, assez intéressant. On voyait que c'était assez coordonné, que les joueurs avaient ce petit effet nouvel entraîneur où on veut faire un petit peu plus d'efforts peut-être que d'habitude. Ça, c'était intéressant. Bon, Glick derrière, c'est toujours une défense centrale un peu compliquée, forcément. Et ça, c'était un défaut de Jardim, clairement. Mais j'ai trouvé aussi, encore une fois, c'est pas du tout...
Je suis très content parce que nous avons vu sur le terrain que...
Alors, tu as été coupé par Robert Moreno.
Ouais, Moreno,
qui voulait parler. Ouais. Fini, Kevin, après on écoutera Robert Moreno.
Voilà. Je finis et donc j'allais juste te dire que j'ai trouvé sur les côtés les monégasques intéressants avec un bon Gelson Martins qui manque encore de régularité mais qui est quand même on retrouve le Gelson qu'on avait trouvé au début.
Ce qui est intéressant sur le match qu'on a vu de Monaco, c'est que les joueurs jouent à leur place. Il n'y a pas d'invention. Gelson Martin ne joue pas quasiment latéral. Il a joué dans un 4-3-3 qui me semble être adapté à ses capacités, à ses qualités. Pareil pour Keïta Baldé. Keïta Baldé, alors depuis qu'il est à l'AS Monaco, on peut dire qu'on est très déçu par rapport à l'ailier virevoltant qu'on avait connu à la Lazio. Là, dans le 4-3-3, ça me semble être adapté aussi pour lui. Il a joué à son poste. Il a été plutôt correct. C'est la cohérent en fait, voilà, c'est ça, c'est cohérent. Après, c'était pas bien dur d'avoir l'air plus cohérent que les dernières compos de Jardim où il a essayé un petit peu tout et n'importe quoi en faisant des innovations de poste pour des joueurs qui ne leur convenaient pas du tout. Moi, j'attends juste de voir comment ça va se passer avec quand Slimani sera dispo, ouais. Parce que la force, c'est quand même cette équipe, c'est quand même cette complémentarité. Slimani Manier, est-ce qu'on peut imaginer un 4-4-2 avec quel milieu? Est-ce que du coup ça enlève pas un poste pour Golovin? Voilà, il y a beaucoup de questions qui vont se poser. On va suivre ça avec beaucoup d'attention parce qu'il y a quand même du matos dans cette équipe là. Il va falloir juste trouver le bon équilibre. Il va forcément falloir faire des choix. Il y a des joueurs, tu vois, tu disais Nico que les cartes étaient un petit peu rabattues. Si tu joues par exemple en 4-4-2, qu'est-ce que tu fais d'un Golovin par exemple, tu vois?
Il va falloir faire beaucoup de choix. Pas jouer en 4-4-2.
Ouais, mais je pense que Fabregas, il est pas amené à rester dans l'équipe.
Est-ce qu'il est pas amené à rester aussi?
Attention, parce que Moreno, j'en parlais hier, t'étais pas là, mais je disais que, tu sais, Fabregas et Moreno, ils ont quand même la même ADN footballistique, dans le sens où ça peut être un très bon relais de ce jeune entraîneur.
Sauf qu'il est
un espèce d'adjoint, tu vois, un espèce de Rooney, entraîneur adjoint sur le terrain.
Kevin, il est quand même rincé physiquement, Fabregas. On a vu qu'il y a du mal. Moi, pour moi, si tu joues en cas, cette équipe, regarde, voilà, je te pose la question. Cette équipe, on va partir du postulat logique qu'elle doit jouer avec deux attaquants. Tu dois jouer avec Slimani et Bagnéder.
C'est difficile parce que t'as pas les milieux pour jouer en 4-4-2. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si tu joues à deux milieux de terrain dans un 4-4-2, même s'il est pas à plat, les deux milieux qui sont entre guillemets la base de ton équipe.
Oui, il te manque une sentinelle en termes de profil.
T'as Bakayoko qui peut le faire, mais encore il est
non,
pas.
Non. Regarde, il était bon avec Fabinho. Fabinho, vraiment la sentinelle. Alors, il manque la sentinelle.
Puis il lui manque un petit peu de rythme encore parce qu'il a pas énormément joué ces dernières saisons, mais Fabregas, il peut pas jouer qu'à deux, il faut qu'il soit à trois.
Moi, je pense qu'il faut.
Golovin, c'est un attaquant, c'est un joueur offensif, tu peux pas le faire jouer en piston.
Moi, je te dis, je pense que la priorité, là, pour l'AS Monaco, même, c'est de vendre un petit peu et d'essayer de trouver.
Adrien Silva, qui était là l'an dernier, qui a ce profil peu, mais.
Et de vendre un petit peu, déjà, pour que Moreno puisse y voir plus clair. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à trouver pour que cette équipe joue avec les deux attaquants. Il y a quand même, quand tu regardes l'effectif, voilà. Tu sais que Bakayoko, moi je le trouve très bon. Et puis là, il a fait une saison pleine quand il était au Milan. Il a joué toute la saison sur les derniers matchs avant qu'il se batte avec Gattuso. Donc il a quand même du rythme. Mais tu sais que dans cette équipe, il va avoir Bakayoko qui va jouer au milieu. Il faut lui trouver le complément idéal qui soit plus en profil sentinelle. Tu vas garder tes deux attaquants, Bagnéder, Slimani. Sur les côtés, je pense qu'en termes d'ailier, t'es quand même bien pourvu. Avec Keïta Baldé, avec Gelson Martins. Même Golovin que tu peux un petit peu décaler. Mais le chantier, c'est toujours derrière.
Et oui.
Il va falloir absolument adjoindre quelqu'un de qualité à Maripán. Parce que par contre, ça je le répète depuis le début de la saison. Pour l'instant, c'est pas Maripán qui joue, c'est son frère. Ouais. Bah ouais. Parce que c'est quand même un bon défenseur. Il a pas tout perdu comme ça. Il peut pas être aussi bon avec
Zachary. On va voir la qualité de Robert Moreno. Va-t-il réussir à relancer des cas presque désespérés à Monaco? On pense à Glick, à Gemerson. Regarde. Pourquoi pas à Maripán notamment.
Nico.
Et Fabregas, hein. Il y a beaucoup qui est désespéré.
Tu sais, je disais ça sur Paredes. C'est le frère de Paredes qui joue au Paris Saint-Germain. Au final, tu vois, regarde, il y a le vrai Paredes qui commence à arriver. C'est pas dégueulasse quand même.
Ça commence à être intéressant. Antoine, supporter monégasque au 32-16. Salut Antoine.
Bonsoir à tous.
Et bienvenue dans l'after, bien sûr. Bon, t'as pensé quoi cette première, toi d'abord, avant de parler du coach, la première monégasque en 2020?
On a gagné, un peu laborieusement. Un peu laborieusement, franchement, j'ai eu un peu peur pour le pénalty.
Reims, c'est pas simple, Antoine. Meilleure défense de Ligue 1 avec le PSG.
On a eu quand même de la grosse chance sur, entre autres, le dernier but.
Ouais.
On a gagné. Comme on dit dans le milieu, on va retenir les 3 points. Mais bon, c'est pas 3 points, mais on va retenir les 3 points. C'est une victoire. On passe au tour suivant. Et voilà, maintenant, il faut se concentrer sur la suite. Je juge pas Moreno. Comme dit, je suis à la base et j'assume un pro Jardim. Donc l'arrivée de Moreno, moi j'ai des attentes. J'attends de voir ce que ça donne. Première victoire, départ, c'est sûr que ça commence bien. Après, il faut voir ce que ça donne. Je suis complètement d'accord avec vous. Le gros chantier, c'est derrière, parce que Maripane, ouais, le frère à Maripane, je pense que l'image elle est bien, mais voilà, il faut que Maripane retrouve le niveau qu'il a montré avant.
Ouais.
Et pour moi, Glick et Jamerson, les faire se réveiller, moi, j'y crois plus. Honnêtement, j'y crois
non,
plus.
Mais là, t'as raison, c'est fini. Là,
c'est difficile.
Pour moi, il faut.
Et le petit Badiachil, qu'est-ce que t'en penses?
Attends, le retour de Maripane, en fait.
Et qu'est-ce que tu en penses du petit Badiachil? Est-ce que tu penses qu'il peut reprendre un peu de...
Non, c'est pareil. Honnêtement, c'est dommage parce que j'aimais beaucoup Badiachil, mais Badiachil, Glick, Jamerson, tout ça, c'est fini. Ils ont fait un gros travail depuis 2-3 ans, 2 ans, disons, sur devant. Effectivement, les noms que. Tous les noms de l'attaque et des ailes que vous avez donnés, ils sont. À part Keita Balde, où moi je suis un peu plus sceptique, mais ça c'est très personnel. Effectivement,
si,
c'est
il continue en 4-3-3, il peut te faire plaisir, je pense.
Ouais, mais pour moi, Keita Balde, c'est pas un titulaire. Ça restera un super sub. Ça restera quelqu'un qu'on fait rentrer pour voir.
Allez, ok. Mais au moins qu'il te serve à quelque chose.
C'est mon avis, voilà. Ça, c'est,
mais au moins, je pense qu'il peut te servir à quelque chose.
Sur Balde, parce que je pense que mon avis n'est pas forcément le meilleur. Mais voilà, tout est à reconstruire derrière. Devant, maintenant, c'est bien. Au milieu, il faut redonner confiance à Fabregas. Et aux jeunes qu'on a et à Bakayoko, hein. Moi j'adore Bakayoko et pour moi c'est vraiment la pierre angulaire qu'il faut mettre au milieu. Maintenant tout est à reconstruire derrière. Est-ce que Moreno aura peut-être les coups des franges pour un ou deux noms cet hiver et surtout cet été prochain vraiment pour reconstruire une belle défense? C'est tout ce que j'espère.
C'est voilà, difficile.
Au prochain tour, il y a deux matchs maintenant. Enfin, il y a des matchs super importants qui arrivent.
T'as deux fois le PSG.
Il va falloir se montrer fort contre Paris entre autres. Donc voilà, ça va être la suite. J'attends de voir Moreno. Comme dit, heureusement, si c'est un bon début, on a gagné.
Pour l'instant, exactement. Moreno, il a dit, en conférence de presse hier, il fait un audit, en fait. Il va voir tous les joueurs, il va observer, comme l'avait fait Paulo Sousa en arrivant à Bordeaux notamment. Et après, il tranchera, il verra avec Petrov, parce que c'est quand même l'homme de Petrov.
Bah ouais.
Hein. C'est Petrov qui voulait, la grande différence avec Jardim, c'est que Petrov le voulait. Exactement, donc peut-être qu'effectivement, il aura plus de latitude pour recruter et imposer des choix.
Mais
Kevin.
Ouais.
Le gros problème, et on vient d'en parler avec Lyon, c'est qu'aujourd'hui, tous les clubs recherchent des défenseurs centraux. Et c'est ça qui va être.
Et il n'y en a pas tant que ça.
Il n'y en a pas tant que ça. À moins d'aller chercher. Alors, bien sûr, dans les championnats étrangers.
Mais c'est sûrement Mangala, là, sur hashtag RMC Live.
C'est très cher.
Toujours un pari.
Sur un prêt.
C'est toujours un pari.
Et il a quel âge, Mangala aussi?
Ouais, il a 25-26 ans, il est jeune.
Pas si vieux, peut-être un peu plus.
Ah, ouais, c'est vrai.
Il n'a pas 30 ans, en tout cas.
Vieux, pardon.
Franchement, il n'a pas 30 ans. Mais
ouais,
après.
Non, okay,
on est d'accord sur le fait que ce que je disais tout à l'heure, c'est moi
28 ans,
tu vois, il a pas 30 ans, que
il
fallait essayer de jouer en 4-4-2 machin, mais j'ai quand même l'impression que Moreno va rester avec ce 4-3-3, hein.
Après son
après, il a écrit sa gueule sur le 4-4-2,
hein, sa tactique, ouais, à lui, ça reste
il
le
4-4-2. Ma recette du 4-4-2, hein, bon. 300 pages, hein, un bouquin, hein.
Parce que là, bon. En fait, j'ai pas compris, mais en fait Slimani était dispo.
Sur le banc.
Et sur le banc, ouais. Moi, je pensais qu'il avait été blessé. Ça, je trouve ça bizarre.
Ouais.
Surtout qu'en plus, si tu joues en 4-4-2, il y a quelque chose qui. Alors, c'est mon petit plaisir à moi, mais j'étais quand même ravi de revoir Jovetic sur un terrain.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est un joueur de 4-4-2.
Bah là, c'est un joueur de football, là.
C'est un joueur de 4-4-2, surtout.
Du football, là, c'est le football de Fabregas, sûrement celui de Moreno, celui de Ben Yedder. C'est de la technicité de très grande classe.
En 4-4-2, c'est un joueur qui est parfait, quoi.
Ouais. Offensivement.
Golovin, c'est pas mal.
Aussi, oui.
Jovetic, Slimani, Slimani, Augustin, c'est bon, Jean-Kevin Augustin sur le banc.
C'est raté pour l'instant, hein, Monaco.
Keita Balde, Ben Yedder, offensivement. Bon, on l'a déjà dit, hein, c'est défensivement qu'il y a un problème. Tu voulais rajouter quelque chose?
Non, j'allais juste te dire que il y a un beau chantier. Je pense que le choix de cet entraîneur, en tout cas, il est excitant. En tant que consultant, je pense en tant que supporter, parce que c'est un choix qui était assez surprenant. Mais en tout cas, il change de tout au tout après Jardim. Et, moi, j'ai envie de lui laisser sa chance, en tout cas, à cet entraîneur.
Ok, Antoine, toi aussi, hein.
Ouais, bah, je lui laisse sa chance. Et moi, ce que j'aimerais bien voir arriver, on parlait défensivement, Mangala, effectivement, mais je pense que Todebo,
l'ancien du Barça, là.
Ça peut être,
non, mais ça va aller au Milan, apparemment.
Mais c'est jeune, ouais, non? C'est jeune.
Il est en Espagne, mais au Barcelone, je crois, non?
Ouais, il est à Barcelone. Todebo, il aurait rencontré aujourd'hui, avec ses représentants, les émissaires du Milan AC, à Milan. Et ça avance très positivement.
Les gars, c'est jeune.
Monaco a le profil pour un joueur.
C'est pas forcément une solution.
C'est trop jeune. Antoine, c'est trop jeune. Essaye de trouver quelqu'un qui a un peu d'expérience quand même.
Eh ben allez-y, proposez sur hashtag RMC Live, parce qu'effectivement c'est une denrée rare, cet hiver, des défenseurs centraux qui apportent des garanties et de l'expérience.
Moi
également.
Je tenterais, si j'étais Monaco ou Lyon, je tenterais de rapatrier Mamadou Sakho.
C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Je l'ai écrit là.
Pas mal, Sakho.
Parce qu'il y a l'Euro qui arrive, on sait que Deschamps l'aime bien.
tous ces joueurs qui sont passés par l'équipe de France, mais qui n'y sont plus, par exemple, et qui voudraient se refaire voir en France.
J'essaierai Sako et j'essaierai aussi de, que ce soit Lyon ou Monaco, d'obtenir le prêt de Lévin Kurzawa. Parce que c'est pas possible que ce joueur ait perdu tout son football. Je pense qu'il faut qu'il parte de Paris. Mais je pense qu'en termes de potentiel, vu ce qu'on avait vu de lui, sa qualité de centre, sa densité physique, sa capacité à marquer des buts de la tête, ça peut être à 6 mois de l'Euro. Il y a quand même des places à gauche qui peuvent, une place à gauche qui peut être prise. Je pense que si t'es Monaco ou Lyon, je le tente au moins en prêt.
Merci Antoine.
De rien.
Excellent soirée.
Bonne soirée à tous, merci beaucoup.
Merci, tu reviens quand tu viens dans l'after, bien sûr. Voilà pour Lyon, voilà pour Monaco, deux candidats à la Ligue des Champions. On est bien qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe de France. 15e à tout la Coupe de France, hein. Dans 14 jours, hein, les 16e de finale. On n'a pas fini d'en parler, on va parler encore dans un instant. Tiens, de Toulouse rapidement. On en parle en même temps, tu sais, hein, tous les samedis soirs de Toulouse. Rapidement, et également d'un exploit ce soir. L'équipe qui a battu Toulouse, justement, avec vous, Kevin et Jonathan. L'after est là jusqu'à minuit, bien sûr, le 32. Est ouvert, le hashtag RMC Live, l'application Direct Studio. Les drôles de dames seront avec nous. Enfin, Fred Armel sera avec nous dans un instant. À tout de suite.
RMC, l'after foot, Nicolas Jamain.
Avec Jonathan Bacardi, avec Kevin Diaz, on est ensemble jusqu'à minuit. Tout à l'heure, on parlera du Real Madrid vainqueur, du Barça, du en échec. Deux buts partout sur la pelouse du dernier de Liga, l'Espagnol Barcelone. Mais la Coupe de France, après avoir évoqué Lyon, après avoir évoqué Monaco, le 32-16, je vous rappelle, est ouvert. Appelez-nous, supporters toulousains, si vous le voulez, Toulouse battue aujourd'hui, comme si tout n'allait déjà pas assez mal pour les Toulousains. 1-0 par une équipe de National 2, Saint-Privé, Saint-Hilaire, équipe du Loiret. Et nous sommes, messieurs, surprise, avec l'entraîneur de Saint-Privé, Saint-Hilaire, monsieur Baptiste Ridira. Bonsoir, Baptiste.
Bonsoir à vous.
Et bravo,
bonsoir,
Baptiste. Hein, franchement, bravo.
Bah, merci.
Alors, bonsoir, les mauvaises langues diront que vous n'avez pas joué une équipe de Ligue 1. C'est pas sympa.
On a essayé de faire le maximum, mais du coup, on a réussi notre coup et c'est vrai que c'est un grand bonheur.
Victoire 1-0. Alors, on rappelle le scénario, il y a un pénalty que vous manquez en début de match. Vous dites quoi à ce moment-là?
On se dit qu'il va falloir gérer la suite et surtout pas craquer mentalement. Et ça s'est vu au niveau des joueurs. Il n'y a vraiment pas eu d'hésitation sur cette première mi-temps. C'était à peu près au bout de la 15e, si je ne me trompe pas, mais on s'est recréé des situations après et ça nous a permis de rester serein et dans le match par rapport à l'évolution.
1-0, donc vas-y Kevin.
Juste coach, je sais pas si vous me remettez, mais rétablissons une vérité sur le niveau de la Nationale 2, hein, pour nos auditeurs qui connaissent pas trop le championnat de France, anciennement le championnat de France amateur. Oui. J'aime bien quand même toujours rappeler, pour avoir quand même fini ma carrière, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a joué il n'y a pas si longtemps en amical l'un contre l'autre. En tout cas, vous étiez coach. Bon, la National 2, c'est quand même pas le football champêtre du dimanche matin. Ça reste quand même... Une belle équipe. Je pense qu'il y a beaucoup de beaux clubs qui sont ambitieux, qui sont bien structurés à ce niveau-là. Et en effet, quand vous rencontrez une équipe comme Toulouse, qui est, on peut le dire, un peu en difficulté. Alors, je dis pas que la National 2 est favori dans ce genre de match.
Menace un peu. Hein.
Mais je vais dire que vous avez fait un très beau match et au final, c'est fort justement que vous remportez cette partie. Est-ce que vous êtes d'accord?
Sans manquer d'humilité, tout à fait. Je pense que effectivement, moi, je me plais à dire qu'on fait le même métier. Que les joueurs et les entraîneurs pro dans des conditions un peu différentes certes, voilà. Ou très différentes quand on voit l'état de notre terrain notamment, mais c'est vrai que sur un match on a des joueurs qui font que ça toute la semaine, on en a aussi qui bossent à côté, mais on est une équipe semi-pro et c'est vrai qu'on fait notre métier que de jouer au foot et c'est ça qui nous permet de pouvoir sur un match espérer battre des équipes de l'élite.
Vous avez des joueurs issus de centres de formation d'équipes qui jouent en Ligue 1 notamment?
Oui, on a, enfin historiquement, mais on a des joueurs qui sont, on a notamment Alexandre Leroyer qui est rentré en cours de jeu, qui était l'an dernier encore en contrat pro à Rennes. On a des joueurs qui sont passés par des formations, peut-être un peu plus de Ligue 2. On a Julien Charpentier qui est passé par Le Havre. À l'époque, Quentin Moutiapoulet qui joue derrière, qui était passé par Beauvais. On a le gardien qui a joué ce soir, qui a quand même été formé au PSG. Donc oui, effectivement, on a quelques joueurs qui ont vécu des centres de formation de l'élite.
Un mot sur Toulouse quand même, on va écouter Antoine Camboré dans un instant, son analyse est assez intéressante de cette défaite. Est-ce que vous avez vu une équipe malade ce soir en face de vous?
On a vu une équipe très jeune déjà dans sa composition, une composition qui était quand même pas celle des titulaires, on va dire, en Ligue 1, avec beaucoup d'absents. Je pense que ça aussi, ça nous a permis de très bien figurer. Mais c'est vrai que sur le plan mental, sur le plan de la détermination, même si on a vu une équipe cohérente tout au long du match, on n'a peut-être pas senti le supplément d'âme que nous, justement, ouais, on a mis pour pouvoir arracher cette rencontre.
Votre buteur à la 96e, Antoine Carnegie, a dit « Mon rêve, c'est le PSG ». C'est quoi votre rêve ?
Je pense que c'est un petit peu le rêve de tout le monde, mais c'est vrai que ce
même
soit
PSG,
que ce soit… Pardon ?
L'OM ou Lyon, c'est pas mal.
Voilà, tout à fait. PSG, l'OM, Lyon, Bordeaux, Monaco, la revanche contre Rennes, ce serait magnifique.
Non, parce que c'est vrai que c'est la question qu'on se pose en général quand un petit poussé, entre guillemets, arrive en 16e de finale. Soit il veut une équipe abordable pour poursuivre l'aventure, soit il veut se faire un kiff intégral et affronter un Paris Saint-Germain, quoi.
Exactement. Puis en plus, mon fils veut jouer contre Paris, donc si on peut jouer contre Paris, ce sera parfait.
La Réunion, c'est pas mal.
Ouais, la Saint-Pierroise. Ouais. On l'avait hésité pour ce tour-là. Ils étaient dans notre groupe de qualif, mais en voyant leur performance, on se dit que c'est peut-être pas un gage de sécurité.
Après, entre vous et moi, on sait bien. Alors, j'ai parlé de la Nationale 2. On sait bien que la R1, donc anciennement DH réunionnaise, n'a absolument rien à voir avec une division d'honneur. Hein.
C'est beaucoup plus haut. Ces écarts-là sont que des écarts théoriques. Un match, malheureusement, tout peut arriver.
Non, et puis ils ont des internationaux malgaches. Ils ont des joueurs de football. Hein.
T'as Baptiste Soudira, donc l'entraîneur de Saint-Privé Saint-Hilaire, hein, qui a éliminé Toulouse en Coupe de France, est avec nous. Tiens, on se souvient que vous avez reçu le 24 décembre, la veille de Noël, sur RMC, et vous avez dit ça, écoutez.
Tu t'engages à faire quoi si vous passez ce tour ? Parce qu'on t'a invité gentiment, tu fais quoi ? Tu te rases la tête ? Tu prends l'engagement auprès de tous les auditeurs d'RMC ? Ça te va ?
Je me rase la tête, c'est pas une teinture plutôt.
Allez, une teinture. Ah, quelle couleur ? Vas-y, Fred, choisis la teinture. La couleur de la teinture.
Une petite peinture.
Elle est verte.
Ah, teinture verte. Reste au passé de Stéphanois.
Alors Baptiste Redira ?
Il y en a déjà beaucoup de vos confrères. D'ailleurs, Benoît Boutron m'a déjà appelé pour me rappeler ce pari, évidemment. Donc, demain, je vais être obligé de décoter une bombe de peinture verte pour pouvoir.
Non, teinture. Une bombe de peinture, c'est trop facile. Un shampoing, au revoir Simone. Non, là, c'est pas 0+0 la tête à Toto, c'est la vraie teinture.
Les écoutez pas.
Un pari est un pari.
Ouais, on a parlé de teinture.
J'ai bien précisé peinture quand même sur la suite de la bande. On va mettre la VAR
pour pas se faire arnaquer, ouais.
On écoutera en tout cas. Merci beaucoup Baptiste d'être venu dans l'after.
Merci. Salut,
Baptiste. Merci à vous de m'avoir reçu et puis bonne continuation.
Tirage au sort lundi soir. Vous réunissez pour le tirage au sort lundi soir ou pas ?
Oui, on va se réunir avec les joueurs au stade pour pouvoir profiter de ce moment-là.
Ça sera l'occasion de faire une photo avec la teinture verte.
Voilà. Ou avec la peinture verte. C'est ça qui fait intégral. Merci, excellente soirée. Allez. Excellente soirée à vous, Baptiste Redira, entraîneur de Saint-Privé. Tiens, messieurs, écoutez, Antoine Camboire, après le match, analyse du coach de Toulouse.
Les aider, les soutenir, voilà, c'est dur pour eux. Donc voilà, après on fait un bon match. Hein. On a des situations, beaucoup de situations pour marquer, pour prendre l'avantage. Et quand vous ne marquez pas, vous doutez, vous êtes en difficulté. Et puis derrière, donc on aurait pu aller dans les prolongations. L'adversaire en a voulu autrement.
Ah voilà, mais il y a un problème.
Écoute, peut-être qu'il s'est dit que la Coupe de France, il s'en fout.
Non, mais
il y a un truc à jouer.
Alors, il y a deux choses. La première, c'est que si c'est ça, il a raison. Il a raison. La priorité, surtout, ce qui va se passer avec les droits télé, etc. C'est une priorité de rester en Ligue 1. Ça, il y a pas de problème là-dessus. Il nous l'aurait dit. Tu sais quoi ? Franchement, même, on aurait compris, quoi. Tu vois ? Il y a pas de souci là-dessus. Par contre, de dire qu'ils ont fait un bon match. Très franchement, vous en pensez quoi, vous ?
Non, mais il peut pas dire autrement, Jonathan, il est obligé.
Non.
À ce point-là, Kevin.
Qu'est-ce qu'il peut dire, vas-y ?
Moi, je peux vous dire qu'il peut pas dire autrement. Moi, j'ai vu une partie du match. Honnêtement, pour moi, la meilleure équipe s'est qualifiée. Et pourtant, c'est
Mais alors, tu dis quoi ?
Il vient de dire, là. On dit,
oui, mais lui, on a fait un bon match. Lui, il va retenir, tu vois, au début de deuxième mi-temps, je vois notamment les Toulousains qui sont bien rentrés dans cette deuxième mi-temps et qui ont sur 2-3 débordements des ballons qui traînent dans la surface. Et il sait très bien et il pense que s'il y en avait un qui avait fini au fond.
C'est pas faire un bon match, là, Kevin.
Non, mais je te parle pas de. J'ai pas dit que c'était la vérité. J'ai dit que lui, c'est la communication qu'il a choisie aujourd'hui. Après s'être fait éliminer par une Nationale 2 et le trou dans lequel ils sont depuis quelques semaines.
Kevin, il peut aussi dire. dire on n'a pas fait un bon match. Maintenant, on connaît notre objectif prioritaire, c'est le maintien en Ligue 1.
Oui. Il aurait pu dire ça aussi.
Il aurait pu dire je veux 23 guerriers.
Ça m'aurait
aidé un combat.
On peut voir que ça n'a pas été son choix.
Clairement.
Après, est-ce qu'ils pensent peut-être vraiment qu'ils ont fait un bon match? Après, ça, je sais pas.
Hein. Ça, ce serait un problème.
Ça voudrait dire qu'il est pas du tout lucide. Après, c'est à chaud, après une très grosse désillusion. Alors, moi, j'ai une petite pensée pour nos amis toulousains parce que.
Bon, ah, c'est dur.
À la rigueur, j'ai envie de te dire, c'est être éliminé. Je suis sûr que la majorité des supporters, ils s'en foutent parce qu'ils sont tellement habitués maintenant depuis plusieurs mois à se prendre des coups sur la tête qu'ils doivent se dire un de plus, un de moins. Dans cette saison galère, c'était écrit qu'on se ridiculiserait en Coupe de France. Maintenant, Toulouse, effectivement, on vit de se remobiliser. Le maintien, même si c'est très compromis, il y a quand même une mini chance à jouer à 100% de se sauver. C'est important, c'est quand même un club d'une ville importante, c'est quand même un club important de Ligue 1. Ouais, j'ose dire que Toulouse est un club important de par son histoire, de par son bassin de population. Mais il y a tout à changer, quoi. Maintenant, il y a tout à changer et il faut vite se remobiliser.
C'est une série.
Courage, là, aux Toulousains.
C'est une série extrêmement rare. Hein. 10 défaites consécutives, toutes compétitions confondues pour Toulouse, qui va recevoir Brest le week-end prochain, qui va se déplacer deux fois après 21e et 22e journée à Lyon et à Amiens.
Dis-moi. Les gars, est-ce que vous pensez que. J'ai une très anodine. Enfin, j'essaie de le dire sans malice, mais est-ce que vous pensez qu'ils vont finir la saison avec le même entraîneur?
Non, c'est compliqué, là.
Bah, c'est exactement ce que je pense. C'est difficile. Tu sais, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ne survivent pas à une telle élimination en Coupe de France.
Et puis, la 10 défaites, il a gagné qu'une fois. Avec Toulouse, c'était lors de sa première journée contre Lille. Il a gagné à New York également en Coupe de la Ligue.
On a malheureusement l'impression qu'il n'a pas vraiment les clés pour arriver, au moins mentalement, à relancer cette équipe. Je pense que le prochain match de championnat va être très important.
Voilà pour Toulouse. On attend dans un instant un supporter du TFC. On me dit au passage, monsieur Parenthèse, que Sacco s'est blessé pour plusieurs semaines apparemment.
Ah ouais?
Monsieur Rosischio. Pourquoi pas Soumaoro également de Lille à Monaco, qui joue plus beaucoup, qui a failli aller l'été dernier à Monaco et qui finalement est resté à Lille. Il y a plein de propositions possibles pour renforcer la défense monégasque également. Tiens, Nabil, supporter du TFC, est avec nous. Salut Nabil.
Oui, salut tout le monde. Bon, mais pour commencer déjà, bonne année à tous et puis
oui, bonne année.
Merci. Merci mon pote. Toi aussi.
Écoute, nous on démarre très mal, comme on a fini très mal. Et franchement. C'est une des premières fois où vraiment je suis.
Attends, Nabil, attends, ouais. On va bouger un peu, fais quelque chose, on t'entend mal.
Ouais, là tu m'entends.
C'est un peu mieux, vas-y.
C'est un peu mieux. Ouais, non, je disais qu'en fait, c'est une des premières fois où vraiment je suis vraiment, vraiment dégoûté de cette équipe-là, de ce qui la compose, de ce qui la dirige, et ainsi de suite. J'ai toujours été un peu optimiste parce que je suis le club, et ainsi de suite, et parce que j'aime ma ville. Mais là, vraiment, là, on a touché le bout. Hein. Là, vraiment, c'est incroyable. Et puis, on se fait sortir, vraiment, logiquement, en plus, c'est ça le pire. Enfin, tu vois, si à cause de ça, il y avait un contenu qui avait été plus que correct. Parce qu'il y a des amateurs en France, c'est pas des semi-pros ou quoi que ce soit, tu vois. Et puis la porte de sortie, c'est impressionnant. Donc là, on va enchaîner Brest samedi prochain.
Attends Nabil, je te coupe, on va te reprendre là. On va te rappeler parce qu'il y a un problème de réseau apparemment. On va te rappeler dans un instant pour parler du Toulouse Football Club. Non mais les gars, j'entends tu poses la question, elle est légitime. Est-ce que tu restes avec Amboiré? Deuxième changement d'entraîneur en l'espace de 5 mois.
J'ai malheureusement.
Le problème, c'est pas forcément.
Tu fais quoi? Il y a des anciens joueurs du TEF. Hein,
ouais, le problème, c'est pas forcément de savoir dirigeante. Qu'est-ce que tu fais avec Amboiré, c'est qui est-ce que tu peux mettre à la place de Cambori?
Pascal Duprat pour refaire reprendre Bodigé pour qu'il dise
Jardim là.
Tu reprends Bodigé pour qu'il remette le coup franc. Non. Et sérieusement, le problème c'est que bon, j'ai dit tout ce que je pensais de la nomination d'Antoine Cambori, mais plus généralement, et je sais qu'il a très mal pris. Il m'a parlé, il a très mal pris. Mais en fait, le problème c'est même pas lui, c'est même pas l'entraîneur, c'est la gestion de ce club depuis des années avec un président qui s'en fout totalement, avec un président qui
fait des s'en fout, ça fait d'équitation à un bon niveau.
Ou manger un steak plutôt que regarder une bonne entrecôte plutôt qu'un match de Ligue 1. C'est un président qui accumule les mauvais choix, qui est en train de tuer ce club. Ça, c'est le problème. Le vrai problème, c'est d'avoir remis Alain Casanova. Le vrai problème, c'est de ne pas avoir su saisir l'opportunité de prendre l'entraîneur qui, c'était écrit que c'était lui qui devait entraîner le TFC. C'était Christophe Pélissier. Alors qu'en plus, il était libre après son départ d'Amiens. C'est un ancien du club. C'est un super entraîneur. Ils ont loupé cette opportunité-là. C'est un club qui est gangréné depuis sa direction jusqu'à toutes les racines du club. Donc maintenant, très franchement, si on me dit est-ce que changer d'entraîneur c'est une solution, Je pense même pas. Je pense que le club est trop malade et tu pourrais mettre qui tu veux comme entraîneur de disponible. Je pense pas qu'il y aurait de grands changements. Donc je pense que la seule chance, la petite chance qu'ils ont, c'est que d'en haut, tu vois, le message soit voilà, qu'il y ait un message de remobilisation, qu'il y ait des touches qui soient apportées au mercato, un investissement qui soit consenti. Mais ça, là, malheureusement, j'y crois pas et j'ai bien peur que le TFC soit condamné.
Alors on nous dit plusieurs messages sur dans les studios qu'il y aurait un rendez-vous prévu demain à 10h30 dans le bureau de Sadran pour Cambouaré. Alors attendez, ça c'est voilà, on nous dit ça sur les réseaux, ça a confirmé bien sûr à prendre avec des pincettes.
Il mettrait qui à la place ?
Bien entendu.
Pour mettre qui ? Moi je suis pas un très grand fan d'Antoine Cambouaré, mais pour mettre qui ?
Après il y a deux profils hein, c'est soit tenter avec un jeune entraîneur du cru qui aurait des qualités, je sais pas moi, un entraîneur des jeunes, mais alors là ce serait vraiment un pari parce qu'ils savent qu'ils sont déjà condamnés et ils veulent déjà commencer on va dire à préparer l'avenir, ou alors mettre un autre vieux briscard de Ligue 1 comme on dit qui dans une opération maintien arrive.
Coach Courbis, vas-y coach.
Oui.
Coach, t'es d'accord ou pas?
Pourquoi pas?
Non, mais c'est une blague, c'est pas lui qui parle. Évidemment, mon gène. Mais oui, coach Robbie, c'est ça faire ça. Stop, t'as raison. T'es dégéné aussi.
Ah, un peu, ouais.
Mais non. Oui, oui. Voilà pour la situation du TFC.
Je sais même pas si Roland pourrait faire quelque chose. Hein.
Et on l'a dit en début de saison, Jonathan, hein, l'effectif est pas dégueulasse.
Hein. Bah oui. C'est ça que je comprends pas. Regarde, t'as en attaque, on avait vu, par exemple, le petit Koulouris, là, c'était quand même relativement une bonne pioche, qu'il avait des qualités. Au milieu de terrain, j'ai quelques doutes, mais quand tu vois des joueurs comme Max Amagradel, quand tu as Dosevi, quand tu as Koulouris, que tu as Sanogo, c'est quand même offensivement, je pense qu'il y a quand même un petit peu mieux à faire. Et en fait, ce qui me chagrine un petit peu, et c'est là où peut-être je vais me contredire, c'est que sur le premier match où Cambouaré joue en 4-4-2 et il associe justement Sanogo et Koulouris avec Dosevi et Gradel sur le côté, on se dit, oh là là, par rapport au discours qu'il avait lors de sa nomination, c'est quand même, on est très bien surpris, très surpris en bien, parce que c'est quand même assez offensif, assez ambitieux. Ils avaient gagné contre Lille, bon, c'était un Lille qui était à la ramasse totale sur ce match-là, mais tu disais, ouais, il y a quand même, mine de rien, dans cette équipe, moyen de se faire quelque chose et moyen de se sauver. Là, malheureusement, je sais pas. Je comprends pas pourquoi il a repassé à un autre système. Je comprends pas pourquoi il a pas continué comme ça. Et ouais, je sais pas quelle est la marge de manœuvre, mais la petite marge de manœuvre que tu peux éventuellement avoir, c'est que l'effectif, contrairement à ce qu'on dit, il est pas si dégueulasse que ça.
Voilà donc pour Toulouse et pour la Coupe de France ce soir. Hein, je rappelle que demain on aura pas mal d'équipes de Ligue 1 hein, qui vont jouer. Hein. On aura notamment le PSG face à Lina Montlhéry. On aura Marseille. Ouais. Trélissac.
Attention, Trélissac.
C'est pas petit jeu. On aura également Saint-Étienne demain qui sera à Bastia Borgo. Attention aussi. Lille à Raon-l'Étape. Montpellier face à Reims-Sainte-Anne. Le club où a commencé Robert Pires. Valenciennes-Dijon notamment et puis notamment Nice face à Fréjus. Raphaël, hein, qui a viré tout le monde, vous l'avez vu. Hein.
Franchement,
cette semaine. Quoi ?
C'est étonnant ce que je dis, mais vivement la reprise de la Ligue 1, parce que la Coupe de France, moi, j'y...
Mais ça parle trop loin.
Ouais, mais toi, t'es la France d'en haut, t'aimes pas le football.
La France d'en haut.
Le football.
Bah ouais, t'es la France Saint-Germain, Jonathan.
La France de Saint-Germain.
Une fois, il m'a dit.
C'est un quartier à Paris qui
avait jamais passé
une période. Saint-Germain-des-Prés.
C'est quoi ?
Saint-Germain-des-Prés.
Ça t'a dit quoi ?
C'est pas ça qu'il y a pas de prix qui a présenté la Coupe de France.
Hey Jonathan, pourquoi pas,
alors, débat
pourquoi juste, Nico. Juste, tu sais qu'il y a pas de district de football à Paris.
Ben oui.
Non, tu savais pas.
Ben si, si, ça, si, je le savais, je le savais quand même.
Et en Marseille, il y en a une.
Quelle est la difficulté ?
Je te donne une info.
Il va bientôt y en avoir un.
Ah ouais. D'accord.
On va le dire.
Par rapport à ce qu'on disait. Est-ce qu'il y aura le club, l'Union sportive de Saint-Germain-des-Prés ?
Saint-Germain-des-Prés. Tu seras coach peut-être. Hein.
Ouais.
Tu ne sais pas jouer au foot.
Ah ouais, ça c'est sûr.
Tu seras entraîneur.
Mais peut-être. Tu sais qu'il y a un club de boxe.
Tu peux être
Saint-Germain-des-Prés.
Allez, on y va.
Et c'est une horreur par contre. Enfin, je n'y allais pas.
Allez, à tout de suite pour la suite de l'after. Fred Hamel arrive. Il est dans les starting blocks pour évoquer le Barça, le cas Griezmann, le Real Madrid vainqueur également ce soir. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Jamain.
Avec Jonathan McCarthy, avec Kevin Diaz également. On est ensemble jusqu'à minuit, messieurs, ce soir. Tiens, un petit déclat là. Le coach de Bourg-en-Bresse dénonce l'arrogance des Lyonnais. Voilà, c'est ce qu'il dit. Battu 7-0. Alors, il dit, nous avons commis, nous avons livré 45 premières minutes correctes. Après, bon, Lyon, c'est le très haut niveau, certains de mes joueurs ont côtoyé le haut niveau il y a un moment et d'autres aspirent à y aller. Mais contre une équipe de haut niveau, il faut être capable de ne pas commettre d'erreur. Je suis quand même énervé de l'arrogance de Lyon sur le dernier quart d'heure, note Karim Mokedem. Je voulais voir le caractère de mes joueurs face à ce type de comportement, mais ils sont trop mignons. Cela m'agace quand même. Voilà, on ne doit pas perdre.
Non, je trouve pas.
Il n'a pas développé. J'ai pas l'impression.
Tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont, au contraire, ils ont respecté en jouant à fond.
Ouais, c'est vrai aussi. Mais bon. Après, c'est peut-être la frustration d'une première mi-temps qui a quand même été bien aboutie et où tu as pris deux buts en contre.
C'est vrai, il a de quoi être frustré là-dessus.
Salut Fredo.
La Chicos.
Bonne année Fred.
Bonne année mon Fredo.
Salut Fredo.
Encore une fois, parce qu'on s'est parlé hier. Fred, super soirée. en Liga. Enfin, beaucoup de choses à dire, ouais, évidemment. Ouais, journée, ouais, tiens, on va commencer par le Barça qui a fini à une grosse demi-heure son match sur un score surprenant de partout sur la pelouse de la Lanterne Rouge de la Liga, l'Espagnol Barcelone.
L'Espagnol qui n'avait que 10 points jusqu'à ce soir.
C'est pire que Toulouse, tu me dis, en fait, c'est ça, quoi.
Ouais, non, mais c'est-à-dire que c'est une. C'est très étonnant parce que, alors, c'est un derby. On connaît la rivalité énorme qu'il y a entre l'Espagnol et le Barça. Mais franchement, l'Espagne était dans un état tellement catastrophique avant Noël que c'est quand même un peu étonnant. Et ils ont bien joué, en plus, l'Espagnol. Franchement, il y a eu quelques phases assez magnifiques. Et le scénario du match, c'est 1-0 pour l'Espagnol, égalisation du Barça, 2-1 pour le Barça et finalement 2-2. Exactement ce qui s'est passé à la Real Sociedad.
Il y a un rouge au milieu,
un carton rouge quand même. Ouais,
exactement ce qui s'est passé à Pamplune, c'est-à-dire que le Barça a quand même de gros problèmes et c'est le même trois fois cette saison. Ouais. Alors qu'on vient de terminer le match aller sur dans un Barça mené rapidement qui égalise, qui mène et qui finalement perd deux points. Un rouge, oui, de Jong, de carton jaune pour deux fautes tactiques, ouais, entre guillemets un peu bêtes, erreur de jeunesse, mais le Barça est. Il a perdu beaucoup de points cette saison, 17. Le Real en a perdu 17. Cette Liga est ultra compétitive.
C'est hyper rare, ça, Fred.
Pardon?
Après 19 journées, le Barça et le Real qui ont perdu 34 points à eux deux, c'est dingue.
C'est tous les ans, ça augmente depuis, on l'a souvent expliqué, hein, depuis la mutualisation des droits, etc.
Ouais,
La Liga est beaucoup plus équilibrée et c'est vraiment très dur.
Il y a quand même le niveau de ces deux équipes qui baisse un tout petit peu aussi.
Je suis pas d'accord.
Non?
Je suis pas d'accord. Ça,
non?
Moi, je pense que c'est le niveau
de le Barça est moins fort qu'à l'époque de la MSN ou qu'à l'époque de Xavi et Iniesta,
Là, tu parles du meilleur Barça de l'histoire.
Et le Real, c'est pareil. Le Real est moins fort qu'avec Cristiano. Fred.
Oui, enfin, oui, mais enfin, non, mais on en reparlera. Attends,
un petit peu,
dire,
un petit peu.
Sincèrement, enfin, je veux dire, excuse-moi, ces équipes sont toutes, les quatre espagnols, toutes les équipes espagnoles sont qualifiées en Coupe d'Europe.
Je dis pas qu'il n'y a pas
l'Espagnol, qui est dernier de la Liga, est terminé première de son groupe de Ligue Europa. Donc, la Liga, si vous voulez pas,
on est d'accord.
Je sais pas regarder les matchs. Elle est beaucoup plus équilibrée qu'avant. Les équipes sont hyper dures à jouer. Et quand t'es pas à 100%, eh ben, tu gagnes pas. Et c'est arrivé au Real plein de fois cette saison. C'est arrivé au Barça cette saison. Alors, dans ce cas-là, l'Europe n'est pas un test. Et toutes les équipes espagnoles se sont qualifiées.
Attends, donc, c'est quoi le groupe de l'Espagnol en Ligue Europa, là? Je sais plus.
Je pense que vous avez tous les deux raisons.
C'est pas le sujet ce soir. On va parler d'actu, s'il vous plaît. Les débats philosophiques et l'analyse, c'est
Fred,
lundi.
Moi, je veux qu'on parle
le
Griezmann.
Samedi, on fait de l'actu.
Parle-moi de Griezmann.
Avant, c'est le jour de rédaction.
Parle-moi de Griezmann.
Non, ça s'appelle le journalisme. Et quand on parle d'un match.
Ok, Fred,
on perd un temps incroyable.
Fred, vous connaissez l'after, on fait des digressions parfois, effectivement.
Bah ouais, non, mais les digressions, c'est le lundi. Samedi, on n'a pas longtemps, on n'a pas beaucoup de temps, donc on parle
des faits.
On parle. Bah 30 ans de journalisme, mon petit gars.
Okay. Allez, les gars,
Griezmann, mauvais match de Griezmann.
Fantomatique.
Gros mauvais match.
Alors, est-ce qu'on peut croire encore un vrai réveil sur la durée de Griezmann au Barça cette saison?
Bien sûr, parce qu'on est obligé d'y croire. Sauf que là, c'est une date fatidique. On vient de terminer les matchs aller.
Eh oui.
Et pour l'instant, le bilan de Griezmann, qui au niveau des buts et au niveau de son importance sur certains matchs, il a marqué beaucoup de buts importants. Avant Noël, il avait marqué le premier but de 3 des 4 matchs du Barça, des 4 derniers matchs du Barça. On est dans un Griezmann qui ce soir a été fantomatique et qui, moi, m'a un peu choqué. 2-3 mauvaises passes, mais indignes d'un joueur de ce talent-là. Non, il n'est pas dedans.
Est-ce que tu penses qu'il y a une possible perte de confiance du garçon également ou pas? C'est pas un mec qui doute, Griezmann.
Non, parce que c'est un boss. Après, il y a tout le travail défensif qu'il fait, qu'on ne voit pas forcément et que lui, il ne l'oublie pas. Il a été formé par Simeone. C'est quelqu'un qui est dans le jeu tactique, il est très bien.
Mais ça, il le fait aussi à l'Atletico, mais il avait quand même un autre rendement offensif. Ça l'empêchait pas l'un, empêchait pas l'autre.
Oui, parce que c'était le patron et il faisait ce qu'il voulait. Sauf que là, il n'est pas le patron. Et après, je vais encore prendre plein des miches, mais il suffit de regarder l'attitude des autres avec lui, c'est tout.
Ça allait pas mieux,
quoi. Mais non, ouf. Mais pour une passe, on a dit que ça allait mieux.
Okay.
C'est ça le problème.
Ah oui, c'est ça.
Il y avait cette passe contre le Borussia, un match qu'il a commencé comme remplaçant. Une passe de Messi, on dit, ah, ça y est, vous avez dit des conneries. Non. Là, franchement, ce soir, c'était. Moi, ça me fait mal parce que j'adore Antoine et ça me fait mal de le voir comme ça.
Le patron, ce soir. Attends, en fait, excuse-moi, Kevin, je donne la parole. Est-ce que tu me dis ce soir, encore une fois, réellement, parce que beaucoup en doutent et nous taxent un peu d'anti-Barcelo depuis plusieurs semaines, qui n'est pas intégré par Messi, par Suarez.
Je pense que Fred a raison là.
Réellement ou pas? Dis-moi ça. Parce qu'on s'en prend plein la tête. Pour être clair, arrêtez, Griezmann, s'adapter.
Je suis pas d'accord avec Fred, mais là, Fred a raison, c'est criant. sur les matchs du Barça qu'on a vus.
Ils ont pas envie.
Ils calculent pas, ils s'en foutent.
Mais ils s'en foutent, Fred, c'est attends, ça. Une vraie question. Est-ce que c'est, tu penses qu'ils ont pas envie, ou c'est simplement une incompatibilité technique?
Non, c'est pas. Non, sincèrement, être incompatible techniquement avec Griezmann, tu peux pas.
Ouais, c'est compliqué.
Ou alors t'es pas joueur de foot. Sincèrement.
Si, enfin, si.
Je veux dire, c'est. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Griezmann, en plus, il fait beaucoup d'efforts, mais simplement, il ne le calcule pas pour parler.
Mais dans l'espace occupé sur le terrain, dans les déplacements, c'est, plus, c'est pas un peu les mêmes espaces et les déplacements que Messi? Parfois.
Ah non, mais il joue à gauche. Il est.
Oui, mais il rentre quand même un petit peu dans l'axe, quand même, tu vois. Ouais, enfin.
Très peu par rapport à ce qu'il voudrait.
Non, mais c'est en fait une combinaison de facteurs, et on l'a vu encore ce soir où, comme dit Fred et comme tu dis Jonathan, déjà il joue à gauche. En plus, ouais,
c'est de la confiture au cochon à gauche.
Ensuite,
hein,
on voit bien que Messi, le boss, bon, il a peut-être rien contre Griezmann personnellement, stricto sensu,
on s'en fout,
mais c'est
fait.
Pas le joueur qu'il est, avec qui il aurait aimé jouer, il aurait préféré jouer avec. Hein? Comment?
Il voulait Neymar.
Oui, bah voilà, il aurait préféré, c'est ce que j'allais dire, il aurait préféré jouer avec Neymar. Bon, ça arrive dans une équipe de foot, l'alchimie se fait pas vraiment. Par contre, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui, le boss, c'est même peut-être pas Messi, c'est plutôt Suarez qui a été très bon?
Ce soir, il fait un match extraordinaire.
Ouais, ouais.
Enfin, les deux buts de Suarez sont sublimes.
Ouais.
Le but et la passe décisive.
Ouais,
c'est-à-dire le but avec ses centres d'Alba, il reprend de une petite volée, mais d'une touche de balle.
Ouais, au premier.
Face au premier poteau. Vraiment, ouais. il y a 3 cm pour mettre la balle. En plus, ouais. Diego Lopez, c'est quand même pas n'importe quel gardien. Et puis, la passe décisive qu'il fait extérieur du pied pour la tête d'Arthur Vidal, elle est quand même très belle. Non, ce soir, Suarez a fait un très très beau boulot. Mais ça ne suffit pas. Et puis, quand même, vous savez le problème qu'il y a eu ce soir, c'est que Ter Stegen est blessé. Et c'est Neto qui a un bon gardien, sauf qu'il ne fait pas de miracle.
Tiens, Fred, on a vu un très bon gardien au Real. Aujourd'hui, Thibaut Courtois. Victoire du Real sur la pelouse de Rétafé. On le sait, on le répète tous les ans, c'est très dur de gagner à Rétafé.
Ah ouais.
En plus avec un tel écart. Soria contre son camp. Varane, excellent, on va en parler dans un instant de Varane. Et Luka Modric à la 96e pour le 3-0. Le Real rejoint mais reste deuxième au classement, différence de but derrière le Barça. Courtois, est-ce qu'il a fait son meilleur match au Real?
Non.
Non,
pas mais forcément. C'est pas forcément son meilleur match, mais... C'est,
il en a fait des bons, voilà, quand même. Hein.
Il en fait, c'est-à-dire que là, il est dans une dynamique où il est décisif, quoi. Ça y est, c'est parti, quoi. Ça
a mis tout Alphonse. Temps.
Pardon?
Alphonse va pas jouer.
Il va jouer beaucoup de matchs.
Ouais.
Parce que Zidane fait beaucoup tourner. Donc, enfin, il fait beaucoup tourner. Va pas considérer que Raiola ne va jouer que les matchs de coupe. Non. Il va jouer certains matchs de championnat. Il va jouer certains matchs de Ligue des Champions.
Ouais.
Enfin, plus maintenant, parce que maintenant, on est le coup prêt. Il va jouer des matchs de Ligue des Champions. Non, il va avoir un peu plus qu'un simple remplaçant. Mais Courtois, aujourd'hui, est indétrônable. Il y a eu des doutes à un moment, mais franchement, surtout, il fait des arrêts réflexes à la Casillas, quoi. Voilà, c'est ça qui est bien. Et en plus, et j'en parlais il y a peu avec un joueur du Real. Et c'est enfin un gardien qui vole. Un gardien qui est grand et qui n'hésite pas à sortir dans les airs. Parce que ça faisait quelques années qu'on n'avait pas eu ça au Real. Hein. Parce que Navas, c'est pas vraiment son fort. Casillas, c'était pas du tout son fort. Donc c'est vraiment, vraiment une nouveauté qui rassure beaucoup les défenseurs centraux. Et ce qui nous amène naturellement vers le meilleur joueur de cette rencontre, qui s'appelle Raphaël Varane.
Et on écoute Zidane, que tu vas rencontrer après la rencontre, qui fait un éloge panégyrique de Zidane pour son défenseur central Raphaël Varane.
Ça fait un petit moment qu'il est là, ça fait un petit moment qu'il prend de l'importance dans l'équipe et c'est surtout important quand il n'y a pas Sergio d'avoir aussi un autre leader. Je fais partie des capitaines. C'est le chemin normal de ce qu'il est en train de faire. Et ce qui était bien, c'est qu'il y a eu beaucoup de communication avec Militao, avec la défense. C'est top de le voir comme ça et surtout c'est bien aussi de le voir en position offensive marquée.
Voilà, ça y est, il le compare à, il dit qu'il le trouve plus mûr désormais, Raphaël Varane.
Alors, parce que à une époque, c'est quasiment un doublé qui marque, parce que le premier but, c'est Soria attribué au gardien contre son camp. Enfin, c'est une tête de Varane, quoi. Donc c'est même étonnant qu'il ait tiré contre son camp. Donc il prend ses responsabilités, Varane. Parce que pourquoi c'est important cette question? Ce que disait naturellement Zidane sur la comparaison avec Sergio Ramos, c'est qu'on a toujours dit en Espagne et aussi en France qu'il était beaucoup moins fort Varane quand il n'y avait pas son protecteur, quand il n'y avait pas Ramos. Ramos était suspendu aujourd'hui et vraiment le patron, ça a été Varane en défense, quoi. Vraiment, hein, c'était moi ça. Il m'avait impressionné, mais ça m'étonne pas cette saison parce que il est parfait et il a fait une petite bourde, une petite erreur, une mauvaise passe en début de rencontre, mais il a tout de suite corrigé grâce à sa pointe de vitesse qui reste quand même son arme enfin, c'est sa meilleure arme, hein. Enfin, c'est un joueur ultra rapide. Donc, alors que nous sommes à un moment quand même, on a quand même beaucoup d'inquiétudes sur plusieurs joueurs de l'équipe de France, en tout cas, côté mais, Varane.
J'allais le dire, Fred. C'est un des seuls joueurs, en tout cas, en chef, tu sais, finaliste de la Coupe du Monde qui est en forme, qui apporte des garanties à l'équipe de France. Parce qu'on parle de Griezmann à l'instant, c'est compliqué. Lucas Hernandez qui joue, qui est blessé.
C'est blessé.
Benjamin Pavard.
Lloris, même Lloris.
Lloris qui n'est pas là. Pogba qui s'est remplacé.
Mbappé.
Mbappé, t'as un Matuidi peut-être.
Mbappé et Matuidi.
T'as Matuidi, Mbappé, Varane. Qui...
Ah mais il a passé un câble. Tu vois, j'ai l'impression que Varane, contrairement à beaucoup d'autres joueurs qui ont gagné cette Coupe du Monde, de gagner la Coupe du Monde, ça lui a encore fait passer un autre cap alors qu'il était déjà très fort. Alors que les autres l'ont mal géré.
Après, moi je l'aime bien, mais on est là pour dire la vérité. Je pense que pendant quelques mois, il a dû digérer ça.
Comme tous.
Il a eu beaucoup.
Fred.
Ouais, il a, ouais, sûrement, mais et je pense qu'il est un peu redescendu sur terre. Il a repris le bleu de chauffe. Et ça lui a fait du bien de cette saison de transition l'année dernière cette année sabbatique compris beaucoup de joueurs du Real voilà et même dans son attitude il voulait plus trop parler après les matchs etc et là on retrouve un Varane beaucoup plus proche des gens plus normal plus naturel quoi donc mais sincèrement c'est un vrai patron et le mot enfin faut voir que en plus ce qui est étonnant c'est que Zidane n'aime pas personnaliser les victoires de son équipe. C'est-à-dire que quand on, en général, on lui pose, moi je lui pose la question sur Varane, il dit un petit mot sur le joueur et après,
ouais, il parle de l'équipe.
Il parle des autres.
Ouais.
Et là, il avait vraiment envie d'insister parce que sur Varane, il l'a dit de la même manière qu'il a insisté en espagnol sur Courtois, parce que là, Varane est un leader, il le dit, c'est un leader aujourd'hui, voilà. Et ça veut dire que pour l'équipe de France, c'est.
Bah, faut espérer que lui et l'anglais soient mis dans du coton jusqu'à l'Euro. Hein.
Ouais, c'est ça.
Et l'anglais ne fait pas un très bon match ce soir.
Juste près de 10 secondes, Zidane a aussi parlé de Militao. Il a été comment ce soir?
Il a été très bien.
Ouais.
C'est un bon joueur.
Franchement, c'est un joueur que j'aime bien. Ouais.
C'est un bon joueur.
Ouais, il est propre.
Ouais,
tu sais,
c'est pas
Beckenbauer.
Non.
Je veux dire, c'est pas le.
Ouais, ouais.
C'est pas
on l'a vu avec Porto.
Il a une belle relance en plus.
Il est propre, etc.
Vu qu'on parle de défenseur, là, Fred, je reviens sur le Barça. Est-ce qu'il y a des bruits autour de Samuel Umtiti, de son avenir pour cet hiver?
Il y a une vraie question, parce qu'il joue plus, là. Donc,
ça parle d'un prêt, ça parle d'un départ?
Je pense que ça va tenir jusqu'à la fin de l'année, quoi. Parce que le Barça est quand même
très compliqué
de la
pour
Liga,
lui,
premier de son groupe de Ligue des Champions, et que voilà, il faut quand même des remplaçants. Hein. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est un remplaçant. Aujourd'hui, quoique l'anglais a un petit peu baissé son niveau depuis ces dernières semaines, mais voilà, Umtiti n'est pas sûr physiquement en plus, quoi. Alors que Piqué, lui, est excellent, quoi.
Ouais. Merci, Fred.
Salut Fred,
excellente soirée.
Voilà, appris une petite leçon de journalisme. Hein.
Bravo monsieur le rédacteur en chef.
Voilà, c'est bien les
petits jeux. Merci monsieur le rédacteur.
En fait, comme je vais avoir 50 ans dans un mois, ça y est.
Ah oui, il va être encore plus chiant qu'avant.
Tu montes à Paris, la fête avec nous pour tes 50 ans quand même.
Ah oui, non, je ne fête pas les 50 ans. Je suis encore en train de payer les 40 alors. Allez, bonne nuit les amis.
Salut Fred, excellente soirée à toi. Allez, vite dans l'after, bien sûr. Tiens messieurs, avant de se quitter, quelques infos mercato. On en parlait tout à l'heure. Todibo Milan AC, ça commence à être très chaud. Ses représentants et Todibo.
Ça leur sert à quoi, Milan, de prendre Todibo?
Ils sont aux abois, hein, Milan. Ils prennent un Ibra Rotti, ils prennent un gamin Todibo en prêt.
Musaccio, ils ont des Romagnoli. Non, mais Musaccio, Romagnoli, ils ont Caldaran. Non, oublie le jeune de la Juve, là, qu'ils avaient pris, là, qui est censé être le meilleur, futur meilleur défenseur italien. C'est Caldara, c'est ça?
Donc,
ils ont des défenseurs centraux. Il n'y a pas d'autres priorités, là?
Je sais pas. Selon The Sun également, Pogba contre Rabiot. Pourquoi pas la Juventus Turin pour offrir à Adrien Rabiot en plus un chèque de 70 millions d'euros pour recruter Paul Pogba.
Maintenant là tout de suite là.
Ouais, mais j'y crois.
Pour cet hiver. Ça
me paraît énorme quand même.
Bien sûr que non.
Ça me paraît énorme.
Mais cet hiver là.
Oui, ça me paraît compliqué.
Et puis un mot sur Nîmes également. Vous savez, on avait parlé d'Adebayor à Nîmes. Ça paraissait un petit peu fou cette histoire. Le président, l'entraîneur Blacard, a dit qu'il n'y aura pas 6 arrivées et 6 départs. On ne construit pas une équipe en hiver. Adebayor, la question était posée. Il fait non. Les journalistes ont repris cette piste.
Mais
il y en a d'autres plus plausibles. J'attends beaucoup du mercato. On attend un avant-centre, voire deux attaquants. On a déjà Ben Raoult, c'est vrai, prêté par les Girondins de Bordeaux.
D'ailleurs, Nîmes qui a failli se faire éliminer en Coupe de France.
Comment Nîmes peut recruter, sachant qu'ils n'ont plus de directeur sportif et pas de cellule de recrutement? Ça me semble être.
Ça, ils en ont récupéré un directeur sportif.
Ah oui, c'est vrai.
Si,
mais là, toujours, ils ont toujours pas de cellule de recrutement adéquate. C'est compliqué.
On verra, mais bon, il y a des clubs à l'agonie en Ligue 1 qui cherchent à travailler cet hiver. Mais on verra. Dur, hein, du mal à se lancer ce mercato d'hiver pour l'instant. On est que le 4 janvier, mais.
Attends.
Il n'y a plus d'argent.
Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent.
Ça va se lancer.
Donne-moi 30 000.
Ça va se lancer. Attends.
Merci messieurs. C'est terminé pour l'after de ce samedi soir. Demain, le retour de Gilbert Bribois, notamment, et Daniel Riolo. Merci Kevin.
Merci à vous.
Excellente soirée à toi. Merci Jonathan.
Merci mon frère.
À très vite. La bise à Ludo Bragnac. Hein. Belle aventure à Ludo. Oh, il pleure.
Moi, j'ai rien à dire. C'est mon ami, mais j'ai rien à dire.
Allez, ciao tout le monde. Bye.
RMC. L'after foot.